Lune, autisme, neutrino, hibernation des ours, changer de sexe, de la chimie en cuisine. Les coups de cœur 2019 de CQFD.
Bonjour Lucia Silig.
Bonjour Stéphane.
Lucia, votre coup de cœur à vous, un coup de cœur 2019, c'est une interview où on avait exploré l'archéologie du handicap.
Oui, c'était avec Valérie Delattre, archéo-anthropologue à l'Institut français de recherche archéologique préventive, qui a publié le livre « Handicap, quand l'archéologie nous éclaire » aux éditions Le Pommier. Et cette interview, elle fait partie des sujets qui m'ont trotté dans la tête pendant un moment, qui sont restés là, parce qu'avant... Je ne m'étais jamais demandé comment on survivait avec un bras en moins il y a des milliers d'années quand il fallait chasser, pêcher, cueillir sa pitance. Je ne m'étais jamais demandé non plus comment nos ancêtres prenaient en charge les personnes atteintes d'infirmité. Or, dans ce livre, on découvre non seulement que ses ancêtres essayaient de soigner leurs congénères avec des traces de trépanation en silex vieilles de 14 000 ans, sous champignons hallucinogènes, enfin on espère, mais aussi qu'ils s'ingéniaient à bricoler des super prothèses très inventives faites au cas par cas, sur mesure. Et puis, comme le raconte Valérie Delattre, le handicap était beaucoup plus présent qu'aujourd'hui, ça concernait tout le monde, de près ou de loin. Et du coup, c'était mieux intégré à la société et on retrouvait des personnes souffrant d'infirmités parfois lourdes, même dans les sphères dirigeantes. Il suffit de penser aux 130 cannes qu'on a retrouvées dans le tombeau Toutankhamon. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus rare aujourd'hui.
Oui, un sujet effectivement assez original. On avait d'ailleurs commencé par demander à Valérie Delattre comment elle avait eu l'idée justement de travailler là-dessus.
Alors, il y a quelques années, j'ai rencontré un athlète paralympique qui s'appelle Riyad Salem et qui pratique le basket fauteuil, le rugby fauteuil. Il est amputé des deux jambes et il a été fasciné par le métier que je pratiquais, l'archéoanthropologie, travailler sur les squelettes du temps passé. Et il m'a questionné, il m'a dit « mais pour les gens comme moi, c'était comment avant ?» Avant englobait des siècles et des millénaires et j'étais bien incapable de lui répondre parce que au fil de toutes les études anthropologiques que j'avais pu réaliser, j'avais rencontré un bossu, un nain, mais je ne m'étais jamais penchée sur une étude plus systématique du handicap et de la différence. Et donc un défi lancé est un défi qu'on relève et avec l'accord de l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, j'ai pu me pencher sur cette thématique avec l'envie qu'elle s'inscrive dans une démarche très contemporaine, c'est-à-dire comment les histoires du passé peuvent nous aider à comprendre nos propres comportements.
Alors comment est-ce qu'on fait justement à partir du moment où vous vous dites « tiens, je vais me lancer effectivement dans cette étude du handicap en archéologie », comment est-ce qu'on fait ?
Eh bien, on regarde déjà tous les squelettes qu'on a étudiés pour voir quelles pathologies on a pu rencontrer, sachant bien évidemment qu'on n'a accès qu'au handicap qui laisse une trace sur l'os. Donc, les grands traumatismes, des agénésies, quelques cas de trisomie, etc. La surdité, la cécité ne nous sont pas accessibles archéologiquement parlant. Et mon métier, l'anthropologie, c'est à la fois une démarche qui vise à étudier le squelette, la matière osseuse dans sa composante biologique. Un squelette, vous avez vu Bones à la télé, nous permet de avoir accès au sexe du défunt, à son âge, à tout un tas de stigmates qui ont laissé une trace sur l'os. Mais on a aussi accès à une composante culturelle. Une sépulture, c'est aussi une structure archéologique que les proches du défunt ont organisée. Et selon les religions, les spiritualités, on a orienté une tombe, on a orienté un défunt, on l'a déposé de telle manière, on a mis des objets. La tombe est intégrée ou pas au cimetière. Et donc, avec nos grilles de lecture, on peut savoir le statut d'intégration ou d'inclusion d'un défunt au regard de sa communauté d'appartenance. Et le corps différent pouvait être traité de la même manière.
Alors, on va peut-être revenir à la place de ces personnes dans la société, mais est-ce que vous pouvez d'abord nous donner quelques exemples concrets ou des cas où on peut clairement identifier un handicap ?
Retrouver quelqu'un qui a été amputé. Quelles que soient les périodes, l'amputation a toujours été pratiquée. Alors, pratiquée de façon très pragmatique dans les temps les plus reculés. J'ai en tête l'exemple d'un homme du néolithique, 4700 ans avant notre ère, enterré dans le sud du bassin parisien. Et il a été amputé de son avant-bras. Alors, au néolithique, on est chasseur, on est agriculteur. Donc, être amputé d'un avant-bras, c'est quelque chose de très important. Il a été amputé avec des outils en silex. On voit très nettement les traces sur son humérus, l'os du bras. Auparavant, on amputait aussi, mais on désarticulait. Alors, vous imaginez la souffrance des patients. On ose espérer que les praticiens. Alors, j'imagine qu'il n'y avait pas de chirurgien, d'orthopédiste, mais plutôt celui qui avait la connaissance des muscles, des tendons et des os et qui devait plutôt être du registre de la boucherie. On a pris le parti de désarticuler des membres parce que gangrénés, parce que très abîmés. Donc, ces squelettes-là, avec un déficit ostéologique, ils sont immédiatement perceptibles quand on les fouille. Quelqu'un qui est lourdement bossu, quelqu'un qui est atteint de nanisme. Donc, il y a des handicaps qui sont immédiatement perceptibles dès la fouille et qui nécessitent bien évidemment une étude par la suite.
Mais est-ce qu'on en trouve beaucoup ? Est-ce que c'est répandu, ces traces d'infirmité ?
Bien sûr, le handicap, c'est un curseur social et un curseur médical, je dirais. Je prends souvent l'exemple d'une fracture. Prenez une fracture tibia-péronée chez un footballeur. À l'heure actuelle, il est immobilisé 3 mois parce qu'on sait bien réduire la fracture et ensuite il peut reprendre ses activités. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, on ne sait pas réduire une fracture ou de façon très occasionnelle. Donc l'os se ressoude. En dépit du bon sens, il se forme une espèce de gros cale osseux et on est boiteux. Donc, une pathologie qui nous semble dérisoire à l'heure actuelle était invalidante dans les siècles et les millénaires passés. Et ce, pour tout un tas d'autres pathologies. Donc, les personnes handicapées, différentes, étaient extrêmement présentes. Donc, très intégrées par quatre forces majeures.
Mais ça veut dire que ça touchait tout le monde.
Mais bien sûr, une chute de cheval, une chute d'escalier, vous pouviez boiter sans avoir pu bénéficier d'orthopédie ou de chirurgie. Donc, les personnes qui étaient différentes ou qui étaient âgées, qui avaient des pathologies dégénératives, étaient au sein de toutes les familles. Donc, dans nos cimetières, on dit souvent, alors il faut prendre avec nuance que le monde des morts reflète celui des vivants, mais dans les cimetières, de toute époque, on retrouve toutes ces personnes différentes et qui ont été intégrées à leur communauté familiale, paroissiale, villageoise, etc.
Dans votre livre, vous remontez même assez loin. Vous faites allusion à des trépanations vieilles de 14 000 ans, donc au néolithique, probablement pratiquées au silex. Est-ce qu'on sait s'il y avait des patients qui survivaient à ces opérations ?
Bien sûr. Ah oui, oui. Alors, on a la trépanation existe toujours à l'heure actuelle. C'est une longue histoire qui traverse les millénaires. Et au néolithique, notamment en France, on en retrouve beaucoup dans les sépultures collectives, les dolmens. Et c'est la lecture de cette neurochirurgie, elle est très impressionnante parce qu'on peut voir si le patient a survécu, en ce sens que la plaie sur le crâne continue à évoluer et se forme un petit cale, une petite boursouflure qui, pour nous, anthropologue, est le signe que le patient a survécu. Parfois, on voit bien que l'opération a été mortelle et qu'il n'a pas survécu. Mais notre interrogation, c'est de savoir dans quel état aussi il a survécu et s'il avait des séquelles ou pas. On imagine que des trépanations au silex, soit par raclage, soit par forme de petits pointillés, et puis on enlevait une rondelle osseuse qui permettait au cerveau compressé de respirer un petit peu, en fait. Hein. C'est cette pathologie que l'on soignait. On imagine bien qu'il y avait des séquelles neurologiques lourdes. Donc, des atteintes de certaines zones qui étaient lésées sur le cerveau. Et on pense que les patients survivaient des semaines, des mois, voire des années, mais atteints, amoindris, avec une grande vulnérabilité qui nécessitait une prise en charge de leurs contemporains.
Ils avaient quand même l'idée, il y a 14 000 ans, de faire un trou dans le cerveau, dans le crâne, pour laisser respirer le cerveau. Donc, c'était déjà l'indication.
Bien sûr, sans doute il pensait qu'il fallait en chasser des esprits maléfiques.
Ah oui,
hein, j'imagine qu'il n'avait pas une perception de la neurochirurgie telle qu'on peut l'avoir à l'heure actuelle, mais la démarche est similaire.
Oui, vous devriez nous voir autour de la table, on grimace un peu lorsque vous racontez
j'imagine
un peu comment ça se passait.
J'imagine que vous blêmissez.
Oui, effectivement.
En vous imaginant. Voilà. Alors, on pense qu'il y avait des pharmacopées, des champignons hallucinogènes, des herbes qui font rire, tout un tas de choses qui permettaient aux patients
de soulager un peu les
souffrir
douleurs,
un petit peu moins. Ouais, voilà.
Et puis, on parle de trépanation, vous avez fait une allusion à une amputation avant. On sait depuis quand on fait des amputations ?
Mais écoutez, archéologiquement, la plus vieille trace d'amputation qu'on connaisse, elle a à peu près 50 000 ans avant notre ère. C'est un sujet du paléolithique qui était enterré vers la Turquie, et lui a été amputé de son avant-bras par des articulations. C'est-à-dire que ses contemporains ont vu que peut-être il était atteint de gangrène, que c'était noirci, que ça sentait extrêmement mauvais. Et donc, ils sont remontés à l'articulation et comme ils devaient le faire avec des animaux, ils ont désarticulé son avant-bras. Et on a retrouvé la tombe de cet individu à Shanidar. Donc, c'est un site extrêmement connu pour ces périodes-là. Et c'est un des plus vieilles, des plus vieux sujets handicapés que l'on connaisse à ce jour dans le monde.
Alors, vous y faisiez allusion tout à l'heure, survivre à ces opérations, c'était déjà pas gagné, mais après, il fallait encore survivre avec un membre en moins. À l'époque des chasseurs-cueilleurs, par exemple, c'était loin d'être évident. Comment est-ce qu'ils faisaient avec un bras en moins?
Ah ben, forcément, ils devaient s'adapter, comme le font nos contemporains avec un membre en moins, mais en plus... De fait, il y avait une assistance indubitable exercée par leurs contemporains, leurs familles, leurs proches. Il est évident que quelqu'un auquel il manque un avant-bras peut pas chasser à l'arc, ne peut pas cultiver avec une arrière, etc. Donc, sans doute avait-il toujours un rôle dans la société. Il n'était pas exclu au prétexte de sa différence, mais le groupe autour de lui se met en action pour pallier ce déficit.
Dans CQFD aujourd'hui, on se penche sur la manière dont nos ancêtres s'occupaient ou non des personnes souffrant d'infirmité. Avec vous, Valérie Delattre, je rappelle que vous êtes archéo-anthropologue. On est là à des époques plus rudes qu'aujourd'hui. Évidemment, la survie n'était de loin pas assurée, même pour les personnes qui étaient en pleine possession de leurs moyens. Du coup, on pourrait imaginer que ces sociétés se débarrassaient de toutes celles et ceux qui pouvaient les ralentir. Or, ça n'était pas le cas.
Alors, il ne faut pas avoir non plus une vision idyllique du temps passé et se dire comme c'était mieux avant et comme nos sociétés sont sinistres et non bienveillantes. Le handicap, comme tout un tas d'autres facteurs, c'est un curseur. C'est-à-dire que dans une société ou dans un groupe, si archaïque soit-il, quand tout va bien, quand les moissons sont florissantes, quand la météo est favorable, ça va bien, y compris pour les plus vulnérables. En revanche, quand vous êtes au Moyen-Âge et en pleine guerre de 100 ans, quand le climat se dégrade, quand il y a des razzias de troupes anglaises, etc., tout de suite, ça se corse un peu pour les plus vulnérables qui deviennent rapidement des bouches inutiles. Vous voyez, c'est un curseur extrêmement prégnant. Et archéologiquement, on a trace de ces périodes un peu rudes où celui qui est déférent et dépendant devient bouche inutile. Et c'est de là que naissent les mendicités urbaines. Les gens dans les campagnes sont jetés sur les routes et vont mendier dans les villes. Et on retrouve des cimetières, par exemple, hors du rempart, c'est-à-dire avec un statut social un petit peu inférieur, avec des taux de représentation de personnes handicapées amoindries extrêmement importantes. Donc c'est un curseur. Les sociétés du passé étaient sans doute plus accueillantes, mais de façon pragmatique, sans intellectualiser la chose. C'était un fait. Mais quand les temps deviennent durs et que les silos à grains ne donnent plus beaucoup de blé, eh bien les plus faibles en pâtissent. C'est vraiment une règle générale.
Oui, alors donc il y a ces périodes très très dures et puis d'autres périodes où, comme vous le disiez, on est peut-être un peu plus accueillant. Est-ce qu'on a des indices justement de cette prise en charge des personnes qui ne pouvaient pas survivre sans aide? C'est quelque chose d'ailleurs qui remonte loin dans le temps?
Le simple fait de les soigner, quand vous êtes un chasseur-cueilleur itinérant, que vous avancez, que vous n'avez pas de domicile, de maison, de village, etc., avoir un enfant hydrocéphale ou avoir un grand-père auquel il manque un avant-bras, ça veut dire qu'il a fallu le soigner. Et le fait de l'amener dans l'âge, ça veut dire que ses contemporains l'ont aidé. On a des tombes de Néandertal qui datent de presque 100 000 ans avant notre ère, avec des enfants atteints de pathologies, de neurologies graves, des paralysies infantiles, etc. Donc ces petits déjà ont survécu. Quand on connaît déjà les affres de la mortalité infantile, c'est une prouesse. Mais on les a accompagnés dans la vie. Et ce qui est extrêmement troublant, c'est qu'on les a accompagnés dans la mort également, puisque ils sont accompagnés d'un adulte enterré avec eux, comme si à l'époque néandertale, on s'était dit non autonome dans la vie, non autonome dans l'au-delà, donc il leur faut quelqu'un avec eux. Ce sont les seules sépultures doubles que l'on connaisse pour cette époque-là. Et en matière de lecture archéo-anthropologique du fait funéraire, l'accompagnement dans la mort est toujours quelque chose de de troublant et de bienveillant. Donc cette bienveillance, elle s'exerce 100 000 ans avant notre ère. Et ensuite se déroule une longue histoire de gestes, je dirais, techniques, orthopédiques, neurochirurgicaux, d'amputation, etc. Et puis, quand vous avez un néolithique qui est enterré avec des objets extrêmement prestigieux, un néolithique amputé d'un avant-bras, auquel on a déposé dans la tombe des objets en silex, une carapace de tortue, quelque chose qui inscrit le prestige de l'individu, on se doute bien qu'il n'a pas été dépossédé d'un statut social au seul prétexte de son infirmité.
Vous citez d'ailleurs dans votre livre plusieurs exemples de sociétés où l'infirmité a plutôt l'air d'être valorisée. Est-ce qu'on sait pourquoi ?
Alors, ces sociétés-là ne sont pas les plus répandues sur Terre, mais il existe des populations, je pense notamment aux Mochica, qui vivent sur la côte littorale.
Oui.
Alors, ce sont les prédécesseurs des Incas. Ils vivent sur la côte littorale du Pérou. Ils ne connaissent pas l'écriture. Ils vivent de la pêche, ils vivent de la chasse, de l'agriculture. Et ce sont des céramistes fabuleux. Leurs poteries sont extrêmement reconnues dans le monde. Il y en a plein dans les musées. Je pense au musée du Quai Branly à Paris. Et sur ces poteries, ils représentent beaucoup d'individus de leur communauté. Et ces poteries représentent beaucoup de personnages amputés, aveugles, bossus, signifiant de ce fait qu'il y avait beaucoup de personnes handicapées dans leur communauté. Et pour les Mochica, accueillir un enfant handicapé, je ne dirais pas que c'est une grande réjouissance familiale, mais ça n'est pas un trouble ou une grande douleur comme ça peut l'être parfois, parce qu'on estime que les personnes handicapées ont un devenir particulier, qu'elles sont en lien avec le monde des ancêtres, avec le monde des morts. Elles font le lien entre les vivants et les morts et on leur destine souvent une mission de chaman. Donc ça n'est pas du tout un trouble et une douleur que d'accueillir une personne handicapée, au point qu'on voit même dans des sépultures des handicaps provoqués à la naissance, des membres broyés, etc., pour provoquer le handicap. Et en ce sens, le handicap est valorisé, comme vont l'être les nains en Égypte. Être nain en Égypte, c'est être promu à une carrière de musicien à la cour. En aucun cas, on est victime de ségrégation. Donc on peut voir à travers l'archéologie et l'histoire des populations pour lesquelles la différence physique n'est pas quelque chose qui exclut, bien au contraire.
Et puis, parmi les exemples d'attention portée aux personnes handicapées que vous citez dans votre livre, il y a aussi ces bricolages, ces ébauches de prothèses qu'on retrouve dans des sites archéologiques. Mmh. Vous parlez de la première jambe de bois chinoise il y a 2200 ans, avec un sabot de cheval au bout, transpercé par une corne de chèvre, comme un bâton de ski.
Oui.
Voilà, des premiers meubles à roulettes en Chine antique, des appareils dentaires en or des Étrusques. Est-ce que vous pouvez, enfin voilà, c'est toujours dans le sur-mesure, on est au cas par cas. On a commencé à se professionnaliser dans la fabrication de prothèses?
Alors, jusqu'au Moyen-Âge, il n'y a pas des catalogues de prothèses qui circulent où on peut choisir le membre qui convient, la couleur de peau, etc. Donc, effectivement, c'est du bricolage extrêmement ingénieux et qui est fait pour un seul individu. Et jusqu'à la fin du Moyen-Âge, début Renaissance, moi je dirais Ambroise Paré, qui est le premier à avoir, malheureusement avec toute son expérience des champs de bataille auprès des rois de France, il a dû amputer à tour de bras. Et non seulement il a inventé une façon de ligaturer qui était beaucoup moins douloureuse et qui permettait aux soldats de survivre, mais il s'est mis en tête de démocratiser des prothèses pour tous ces militaires invalides qui peuplait l'Europe entière. Et je pense que c'est lui le premier qui a, avec les armuriers, avec les concepteurs d'armures métalliques, c'est lui le premier qui a dessiné des prothèses les plus simples comme les plus compliquées, prothèses de mains, prothèses de jambes, susceptibles de pouvoir être adaptées à des pathologies assez similaires. Mais auparavant, on bricolait avec une tige en fer, une boucle qui pouvait être une boucle de chaussure, une boucle de ceinture, un lien en cuir, et on faisait une petite fourche qui aidait une personne à piquer des aliments. Donc voilà, Ambroise Paré est vraiment le plus grand prothésiste qu'on connaisse et l'ancêtre de tous les spécialistes actuels.
Valérie Delattre-Lucci l'a évoqué en introduction. Dans ce livre, vous relevez que par le passé, on trouvait des personnes sévèrement handicapées dans toutes les sphères de la société, y compris parmi les dirigeants. Est-ce que vous pourriez nous donner un ou deux exemples ?
Eh bien, par exemple, je songe à Arégonde, qui est une reine mérovingienne, qui a été enterrée dans la basilique Saint-Denis à côté de Paris. Et c'est une reine veuve que ses fils auraient bien voulu chasser du pouvoir pour s'en emparer. Elle était atteinte de poliomyélite, elle boitait sévèrement, elle était douloureuse. Eh bien, coûte que coûte, elle a maintenu le règne qu'elle avait, les pouvoirs qu'elle avait. Elle a été une reine dont on connaît le règne de façon extrêmement claire. Et je dirais son double handicap d'être femme et handicapée à l'époque mérovingienne ne l'a pas empêchée d'exercer des fonctions extrêmement importantes. Je songe à des grandes abbesses carolingiennes, infirmes elles aussi, mais qui exerçaient des pouvoirs avec une poigne extrêmement, extrêmement ferme. Et on a tout au long de l'histoire des grands dirigeants, alors connus,
comme Toutankhamon.
Espagne.
On en parlait dans l'introduction.
Toutankhamon, puisque Toutankhamon rend une visite à l'heure actuelle à la Villette. Toutankhamon, qui est mort si jeune, était manifestement atteint d'un pied bot. Il boitait de façon extrêmement sévère et sa momie en atteste. Outre le fait qu'il était atteint de pathologies congénitales, puisque ses parents étaient frères et sœurs, etc. Donc il avait quand même un patrimoine génétique lourd, mais il boitait. Ce qui fait qu'on a effectivement, comme vous le disiez, retrouvé des dizaines de cannes qui n'étaient pas des cannes d'apparat, mais des cannes qui l'aidaient à se déplacer dans son tombeau. On sait, pour avoir étudié ses vêtements et notamment ses sous-vêtements, qu'il devait s'asseoir d'une façon extrêmement particulière pour soulager sa jambe malade, parce que le textile, les fibres de lin sont usées que d'un côté et pas de l'autre. Et puis, preuve indubitable qu'il était amoindri, c'est que c'était un grand archer, comme la plupart des souverains et des pharaons égyptiens, sauf que toutes les représentations qui figurent Toutankhamon en train de bander un arc, il est assis. C'est-à-dire que la station debout devait lui être difficile, et aller tirer à l'arc en étant assis, à moins d'être un champion paralympique, c'est extrêmement compliqué. Donc Toutankhamon, mort si jeune, était un grand pharaon handicapé.